Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal Nawal El Amouchi. La défense civile dans la bande de Gaza a annoncé ce lundi la mort de 19 personnes, dont plusieurs frappes israéliennes, dans le nord du territoire palestinien. Israël a annoncé l'expansion de son offensive dans l'enclave. Le pays prévoit la conquête du territoire palestinien. Nous y revenons plus en détail au cours de cette édition. Au Yémen, les tensions ne faiblissent pas. Les États-Unis ont mené avant l'aube de nouvelles frappes sur la capitale du Yémen, selon les rebelles Houthis. Ces derniers ont revendiqué hier un tir de missile inédit contre le principal aéroport international d'Israël. Plus de précisions dans notre journal. Et enfin, le trafic est fortement perturbé ce lundi en Île-de-France sur les RER B et C, ainsi que sur certains transiliens, conformément aux prévisions de la SNCF, au premier jour d'une semaine d'appel à la grève. Nous l'avons évoqué dans les titres, la défense civile dans la bande de Gaza a annoncé la mort de 19 personnes dans plusieurs frappes israéliennes dans le nord du territoire palestinien. Israël qui a annoncé aujourd'hui l'expansion de son offensive dans l'enclave. Le pays prévoit la conquête du territoire palestinien. Objectif affiché selon les mots du cabinet israélien, vaincre le mouvement islamiste et assurer le retour des otages israéliens après plus de 19 mois de guerre. Les précisions avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, le plan comprendra entre autres la conquête de la bande de Gaza et le contrôle de territoire selon le cabinet israélien approuvé à l'unanimité par ce cabinet qui réunissait les ministres du gouvernement. Ce plan prévoit des frappes puissantes contre le Hamas. Le premier ministre israélien a par ailleurs affirmé qu'il continuait à promouvoir le plan Trump visant à permettre le départ volontaire des habitants de Gaza et que les négociations à ce sujet se poursuivaient. Début février, le président américain avait lancé l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis pour reconstruire et en faire, selon ses mots, la Riviera du Moyen-Orient, projet qui avait suscité un tollé international. Les organisations d'aide internationale ainsi que les Gazaouis témoignent depuis des semaines d'une situation humanitaire dramatique dans ce petit territoire. La bande de Gaza victime de pénuries de biens de première nécessité. Le programme alimentaire mondial, l'un des principaux fournisseurs de nourriture dans l'enclave palestinienne, a annoncé le 25 avril dernier avoir épuisé tous ses stocks dans le territoire palestinien.
Et gros plan justement sur la dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, je vous propose d'écouter Nizar Badran, médecin franco-palestinien et président de Palmed France, une association qui organise la solidarité médicale entre les hôpitaux français et palestiniens. On l'écoute.
L'attaque israélienne depuis le début a entraîné le démantèlement du système de santé. Les hôpitaux étaient particulièrement visés, les hôpitaux, les cliniques, les ambulances, les médecins, les infirmiers, les cadres. Disons, l'attaque de structures médicales, parmi d'autres aussi les structures, les infrastructures en général, hein, l'eau potable, l'alimentation, tout ça, c'est une politique génocidaire qui cherche à expulser les Palestiniens à terme et rendre le territoire de Gaza inapte à une vie d'homme, à une vie normale possible. Donc que l'armée israélienne maintenant aggrave un petit peu le problème, ajoute sa volonté d'occuper la totalité du territoire de Gaza, et évidemment ça va aggraver une situation déjà extrêmement préoccupante, mais cette catastrophe n'est pas due à l'action de l'armée israélienne directement, uniquement, elle est due à une volonté politique d'interdire l'accès à Gaza de l'aide humanitaire. C'est pas que le fait de voir des soldats sur place qui pose problème, c'est plus la volonté affichée d'interdire, d'assoiffer, d'affamer la population, d'empêcher les soins médicaux, d'empêcher même les naissances des enfants. Il y a une politique qui était dénoncée même par des comités d'enquête de Nations Unies. Et tout ça, c'est vraiment ça devient lamentable. C'est d'autant plus que le monde occidental et le monde qui se considère comme défenseur des droits de l'homme, il ne dit absolument rien, mais en plus, il soutient cette politique, parce que dans la réalité, quand vous ne dites rien, vous soutenez.
Nizar Badran, médecin franco-palestinien et président de Palmed France. Au Yémen maintenant, les tensions ne faiblissent pas. Les Houthis ont rapporté ce lundi de nouvelles frappes américaines sur la capitale Sanaa. Une campagne qui s'inscrit dans un contexte régional explosif et qui intervient après le tir d'un missile ayant touché pour la première fois la zone de l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv. Les précisions avec vous, Nadia Bencher.
À Sanaa, la capitale yéménite, une série de frappes aériennes attribuées aux États-Unis a secoué la ville et ses environs. Selon les rebelles Houthis, au moins 10 frappes ont visé plusieurs zones, dont la rue Arbaïn et la route de l'aéroport. L'agence Sabah, affiliée aux Houthis, fait état de 14 blessés dans le quartier de Sawan. Ces attaques s'inscrivent dans une intensification des bombardements américains depuis janvier, des opérations destinées à freiner les tirs de missiles et de drones des Houthis contre Israël et les navires commerciaux en mer Rouge. Ces frappes interviennent aussi au lendemain du tir d'un missile ayant touché pour la première fois la zone de l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv où le trafic aérien a été brièvement suspendu. Dimanche, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis des représailles contre les rebelles Houthis du Yémen et l'Iran. Les Houthis qui affirment pour leur part agir en solidarité avec Gaza ont annoncé plus tard le même jour qu'ils continueraient à cibler les aéroports israéliens et ont appelé les compagnies aériennes à annuler leurs vols vers Israël.
Et l'Iran a dévoilé hier un nouveau missile balistique d'une portée de 1200 km, selon un média d'État, au moment où les pays occidentaux s'inquiètent des avancées du programme balistique du pays. Aux États-Unis maintenant, Donald Trump a indiqué dans un entretien diffusé hier par la chaîne NBC qu'il ne cherchait pas à faire un troisième mandat, mais entendait passer le relais à un grand républicain, selon ses mots, après ses 4 ans à la Maison-Blanche. Le président américain a fait plusieurs annonces. Il a notamment demandé à son administration la réouverture et la modernisation de l'emblématique prison d'Alcatraz dans la baie de San Francisco pour y enfermer les criminels les plus violents. Dans un autre volet, le président américain a également annoncé l'instauration de droits de douane de 100% sur les films diffusés aux États-Unis mais produits à l'étranger. Le président américain s'est justifié. Selon lui, l'industrie cinématographique américaine est en train de mourir très rapidement. Après des semaines de pression et de tractations, le secrétaire américain au Trésor et la vice-première ministre ukrainienne ont signé un accord de partenariat économique. Donald Trump réclamait le droit d'exploiter les ressources du pays afin de rembourser Washington pour l'aide militaire, financière et humanitaire apportée depuis le début de la guerre. Les précisions avec vous, Swada Karman.
Accord historique sur les minerais. Après des semaines de négociations intenses, c'est enfin signé. Pour l'Ukraine, cela ressemble à une victoire. Pour rappel, les tensions entre l'Ukraine et les États-Unis avaient culminé le 28 février lors d'un échange musclé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Mais la situation semble donc s'être apaisée depuis. Les conditions sont bien plus favorables pour Kiev que les précédentes moutures. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l'accord de véritablement équitable et de son côté, Washington y voit un partenariat gagnant-gagnant. Que prévoit cet accord? Les Américains auront donc accès aux minerais, au pétrole et au gaz ukrainien. Il y a aussi la création d'un fonds d'investissement à participation égale entre les États-Unis et l'Ukraine pour la reconstruction et qui veillera sur les projets d'exploitation des minerais ainsi que le pétrole et le gaz. Ce fonds sera alimenté par les revenus futurs tirés de ses ressources naturelles, à savoir que l'Ukraine concentre environ 5% des ressources minières mondiales, mais une partie reste inexploitée ou difficile d'accès. Cet accord ne prévoit aucune garantie de sécurité pour Kiev, malgré l'insistance de Volodymyr Zelensky sur ce point jugé essentiel. Le document ne prévoit pas non plus de réparation financière aux États-Unis pour leur aide. L'accord doit encore être ratifié par le Parlement ukrainien.
Au Brésil maintenant, un attentat à la bombe a été déjoué pendant le méga-concert de la chanteuse Lady Gaga à Rio de Janeiro samedi. 2 personnes soupçonnées d'être impliquées ont été arrêtées, ont annoncé les autorités hier. Un concert qui a réuni environ 2 millions de personnes sur la plage emblématique de Copacabana. En Roumanie, l'extrême droite reste en tête 5 mois après l'annulation choc du premier tour de la présidentielle. George Simion, un eurosceptique fan de Donald Trump, a recueilli 40,5% des suffrages selon des résultats quasi finaux. Il affrontera au second tour prévu le 18 mai le maire centriste de Bucarest. En France maintenant, une cérémonie en hommage à Aboubacar Cissé a débuté en fin de matinée à la Grande Mosquée de Paris. Des discours ont été prononcés pour condamner les actes anti-musulmans et appeler à l'unité nationale. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, a exprimé sa profonde tristesse suite au meurtre de ce fidèle musulman le 25 avril dernier dans la mosquée de Khadija de la Grande Combe dans le Gard. On l'écoute.
En ce lieu de prière et de mémoire, dans cette maison de Dieu qui est la Grande Mosquée de Paris, nous sommes réunis aujourd'hui debout à devoir, mais le cœur profondément à terre. Nous entourons une dernière fois le corps purifié de notre jeune frère Aboubacar Cissé, jeune homme de foi, fils du Mali, accueilli par la France, chéri de sa communauté, assassiné lâchement alors qu'il se prosternait devant son Seigneur dans l'acte le plus pur et la dévotion. Certes, il ne détenait pas la nationalité française, mais il vivait parmi nous, dans ce pays, aux côtés de sa famille, de cœur et d'âme française. Et c'est bien la France, aujourd'hui, tout entière, qui pleure son départ. À vous, sa famille. À vous, ses proches, venus des quatre coins de la terre, j'adresse au nom de tous notre compassion sincère, notre fraternité indéfectible et cette promesse. Nous n'oublierons jamais ce chahid qui est mort de façon extrêmement barbare.
Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. On reste en France. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a publié une nouvelle circulaire consacrée aux naturalisations des étrangers qui, dans la forme, insistent davantage sur les dispositions susceptibles de restreindre l'accès à la nationalité française. Bruno Retailleau présente le contenu de cette nouvelle circulaire en ce moment même, en déplacement à la préfecture du Val-de-Marne, à Créteil. Et toujours en France, le trafic est fortement perturbé aujourd'hui en Île-de-France sur les RER B et C, ainsi que sur certains transiliens, au premier jour d'une semaine d'appel à la grève. Nous sommes loin d'une semaine noire, il n'y aura pas de semaine à l'arrêt, mais une semaine aussi normale que possible, a pourtant indiqué hier le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. Il a annoncé que les circulations seront normales du lundi 5 au jeudi 8 mai sur les TGV et que la plupart des trains circuleront lors de la grève des contrôleurs les 9, 10 et 11 mai. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à 15h pour notre prochain flash information. Très bonne suite des programmes sur Radio Orient.